France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En fait, nous sommes ciblés parce que nous sommes fragiles. Nous sommes une petite minorité au Pakistan. Si un chrétien réussit un peu trop dans la vie, il est immédiatement attaqué.
Le blasphème a été utilisé comme un outil à plusieurs périodes. Mais je pense qu'avec le temps, cette question s'est radicalisée, au point d'être même devenue une arme. C'est arrivé après l'assassinat de Salman Taseer en 2011.
Il y a des voix contre la loi sur le blasphème au Pakistan. Et il y en aurait encore beaucoup plus si on n'était pas discrédité comme étant des agents à la solde de l'Occident.
Le 31 octobre dernier, la Cour suprême pakistanaise, la plus haute instance judiciaire du pays, annonçait l'acquittement d'Asia Bibi et demandait sa libération immédiate. Condamnée à mort en 2010 pour blasphème, la chrétienne arrivait au bout de 10 ans de marathon judiciaire. Un soulagement pour cette ouvrière agricole et pour ses soutiens, les organisations de défense des droits de l'homme, qui voient dans les lois anti-blasphème un outil d'oppression contre les minorités et les dissidents. À l'annonce de la libération d'Asia Bibi, on redoutait un embrasement dans ce pays musulman très conservateur. Les manifestations ont finalement été modestes, mais le sujet reste explosif. Si personne à ce jour n'a été exécuté pour blasphème au Pakistan, de simples accusations suffisent à provoquer des lynchages et des assassinats. En 2011, le gouverneur du Pendjab a même été tué par son garde du corps pour un simple appel à réformer la loi. Pakistan, les damnés du blasphème, c'est un reportage signé Solène Fioriti. Donc en reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Laurent Gaillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, spécialiste du sous-continent indien. Parmi vos publications, je peux citer votre contribution à la revue Politics avec un dossier intitulé « Justicier hors la loi ». Nous allons commencer par écouter ensemble le reportage de Solène Fioriti qui commence le 31 octobre 2018.
Sur les marches de la Cour suprême d'Islamabad, l'avocat d'Asia Bibi, Saïf Ul Malouk, affiche un sourire radieux. Devant un parterre de journalistes locaux, il confirme l'acquittement de sa cliente qui aura passé 8 ans dans les couloirs de la mort.
La Cour suprême a prêté serment de protéger la constitution de ce pays. Elle s'y est tenue. Les juges l'ont montré. Alors qu'ils ont été menacés, alors qu'on a demandé qu'ils soient tués. Aujourd'hui, Asia Bibi va pouvoir profiter tranquillement de la vie dans un bon pays.
À moins d'une dizaine de kilomètres de là, encadrés par des forces de sécurité déployées partout dans la capitale, des militants religieux font éclater leur colère. Ils scandent tour à tour deux slogans qui disent « Nous sommes là au prophète et il n'existe qu'un châtiment pour le blasphémateur qu'on tranche sa tête. » Dans le bourg d'Itanwali, au cœur de la province du Pendjab, les villageois aussi sont amers. Asia Bibi vivait parmi eux avec sa famille. Elle travaillait fréquemment dans les champs avec d'autres ouvrières agricoles musulmanes. Mohamed Ilyas, un modeste propriétaire terrien, était son employeur.
Asia travaillait dans ce champ à ramasser des baies. Ici, c'est le puits depuis lequel on tire l'eau. Tout le monde était assis là lorsque l'incident s'est produit. Les femmes musulmanes ont tiré un seau d'eau à boire pendant la pause. Asia, la maudite, a bu l'eau de leur seau et elles se sont disputées. Les femmes musulmanes lui ont demandé pourquoi elle avait sali l'eau, puisqu'elle était chrétienne. Asia a répondu « J'ai lu dans les livres religieux qu'il n'était dit nulle part que les musulmans ne peuvent ni boire ni manger avec des chrétiens. » Puis la dispute a continué et Asia a prononcé des paroles blasphématoires. Je ne peux pas vous les répéter. Vous n'avez qu'à les lire dans le rapport de police. Je suis arrivé au bout de 10 minutes. J'ai demandé à Asia, c'est vrai que tu as dit des choses infamantes sur le prophète? Elle a dit oui. J'ai dit ces mots et je connais le sujet mieux que toi. J'ai dit qu'elle avait tout faux, je l'ai renvoyé sur le champ. « Puis la nouvelle est arrivée jusqu'au village où les anciens ont tenu un conseil. Devant eux, Asia a reconnu le blasphème et a imploré leur pardon. Ensuite, les habitants du village ont contacté la police qui est venue l'arrêter. Il y avait des gens dans le village qui voulaient la tuer, non pas la remettre à la justice, mais nous avons suivi la loi, nous l'avons conduite à la police. Et finalement, la Cour suprême l'a acquittée. Alors nous regrettons de ne pas avoir fait justice de nos propres mains.
Si beaucoup espèrent que l'acquittement d'Asia Bibi fasse jurisprudence, son cas est loin d'être isolé. D'après différentes estimations, plus d'une cinquantaine de personnes sont aujourd'hui condamnées à mort pour blasphème. La plupart l'ont été dans la province du Pendjab, où vivent la moitié des 200 millions de Pakistanais. C'est le sort qui pourrait attendre Patras, jeune homme de ménage de 17 ans. Il est accusé d'avoir blasphémé sur Facebook. Son cas est discuté aujourd'hui dans un tribunal local de Lahore. Le jeune homme a le regard doux, il porte une chemise mauve boutonnée jusqu'au col et ses cheveux sont peignés avec soin. Patras ne quitte pas sa mère des yeux. En quittant la salle d'audience, il dépose un baiser sur son front. L'avocat de Patras, maître Tahar Koul Sadik, défend le jeune homme depuis des mois.
Patras a été accusé d'avoir partagé une photo irrespectueuse de la mosquée du Saint-Prophète sur les réseaux sociaux. La photo montre un pied humain qui se pose sur le dôme de la mosquée. Mais en fait, il n'a pas du tout partagé cette photo, car son téléphone se trouvait dans un atelier de réparation de téléphones portables. Si quelque chose a été partagé sur les réseaux sociaux, c'est à son insu. Il l'a appris quand il a été arrêté. Nous essayons de prouver que ces accusations sont fausses. Vous savez, c'est un cas très grave. Habituellement, pour des accusations de cette nature, les accusés sont condamnés à mort. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que c'est la police cybercriminelle qui a instruit l'affaire, et non pas la police locale.
Depuis 2017, une loi punit le blasphème sur Internet. Les Pakistanais ont été prévenus par voie de presse ou par texto. Des millions de SMS ont ainsi été envoyés sur leur téléphone personnel pour les en informer. Si l'internaute est reconnu coupable d'injure contre le prophète, la peine encourue reste la même, la condamnation à mort.
Patras est mineur, il avait à peine 16 ans lorsque l'incident s'est produit. Devant la cour aujourd'hui, nous nous sommes évertués à prouver son âge, il a maintenant 17 ans. Pour le moment, il est jugé par un tribunal ordinaire parce que les juges refusent de le déclarer mineur. Depuis un an, nous leur demandons d'examiner son âge sans résultat. C'est simple, dans un système de justice pour mineurs, il ne serait pas condamné à mort. Alors que s'il reste dans ce tribunal, il y a de bonnes chances que soit prononcée la peine capitale.
Un jeune homme qui marche péniblement à l'aide de béquilles quitte à son tour la salle d'audience. Son visage est marqué de cicatrices. Il s'appelle Sajid, c'est le cousin de l'accusé. Les enquêteurs lui ont reproché d'avoir reçu cette photo blasphématoire sur son téléphone, ce qu'ils n'ont pas pu prouver par la suite. Pour fuir un interrogatoire trop violent, Sajid a sauté par la fenêtre. Une version que la police a toujours niée.
Les enquêteurs ont pris mon téléphone portable en garde à vue. Ils ont commencé à regarder le contenu. Et comme ils n'ont rien trouvé, ils m'ont dit qu'ils enverraient le téléphone au laboratoire pour voir si j'avais effacé une photo ou non. Ils nous ont ensuite interrogés au poste de police pendant 4 heures. Ils n'ont obtenu aucun aveu de nous. Ils m'ont dit « Maintenant, fornique avec ton cousin devant nous ». Je les ai suppliés, j'ai dit que j'étais innocent, que je n'avais jamais blasphémé. Ils ont continué à nous frapper, ils nous ont demandé d'être immoraux. Je leur ai dit « Pitié, nous sommes comme des frères ». Alors ils ont frappé encore et encore et ils m'ont cassé la mâchoire avec une matraque. Ils ont dit « On ira chercher ton père pour qu'il fornique avec toi ». J'ai encore résisté. Et puis ils ont attrapé Patras, ils ont arraché ses vêtements et ma chemise. J'ai sauté par la fenêtre et j'ai été conduit à l'hôpital. J'ai pensé « Tant qu'à mourir au poste de police, autant mourir sans avoir fait ce qu'ils me demandent ».
Sajid est aujourd'hui poursuivi par la justice pour avoir tenté de mettre fin à ses jours, un crime qui peut valoir jusqu'à un an de prison au Pakistan. Les responsables de l'interrogatoire, eux, n'ont pas été inquiétés. Mazi et Samia sont les parents de Patras. Après chaque audience, ils prennent un chai, un thé au lait sucré, dans la cafétéria du tribunal. La mère de famille a des larmes plein les yeux. Son mari, le dos voûté sur sa tasse, la couvre d'un regard accablé.
Quand je viens à la cour, je me sens très mal et sans défense. Cet endroit est pour les terroristes ou les gangsters. Nous n'avons rien à faire ici. À chaque fois, nous venons avec beaucoup d'espoir. On se dit peut-être que ce jour-là, Dieu aura pitié de nous. Peut-être que Patras sera libéré sous caution. Mais où le juge ne vient pas, où la défense ne vient pas. Parfois, il n'y a aucune avancée lors des audiences et le temps passe. Ça fait maintenant plus d'un an. Que pouvons-nous faire? Il est notre fils, notre vie. Nous ne pouvons pas le laisser ici. Quand nous venons ici, nous sommes guidés par l'espérance. Et quand nous partons, nous sommes tristes et abattus.
Si vous voyez mon fils, vous verriez qu'il est incapable de blasphémer. Mon Patras ne s'est jamais battu avec personne. Il est encore plus gentil que mes deux autres fils. Je prie tous les jours pour que Dieu le fasse sortir. C'est un garçon qui aime les plats que je prépare, qui est très proche de sa sœur cadette. Patras allait à l'église tous les dimanches et chantait dans la chorale. C'était un fils saint. Le jour où tout est arrivé, je n'y ai pas cru. Mon mari et Patras étaient tous deux au travail à faire le ménage dans une banque. Le prêtre est venu chez nous. Il a posé des questions sur Patras. J'ai dit qu'il était au travail. Il m'a dit: il y a un drame, dis à ton fils de ne pas rentrer, d'aller ailleurs. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit: ne rentre pas à la maison. Nous ne comprenions rien. Si j'avais su, j'aurais tout de suite imploré le pardon des voisins.
Oui, le prêtre a eu connaissance du problème parce qu'une foule s'était rassemblée devant l'église. Les gens avaient des bouteilles d'essence, de l'acide et des bâtons. Ils menaçaient de brûler Patras s'ils l'attrapaient. La foule s'est ensuite ruée vers notre maison. La police est arrivée, mais ils n'ont pas pu empêcher la foule de tout casser au rez-de-chaussée. Ils ont même frappé notre voisin Asif Gori à la tête. Ils l'ont battu parce qu'il ne trouvait pas Patras. Tous les chrétiens du quartier se sont enfuis parce qu'ils ont eu peur que la foule brûle le quartier. Car dans notre village, à Chardra, il y a environ 80 maisons chrétiennes. Je n'étais pas à la maison, j'avais les nouvelles par téléphone et c'était effrayant. En fait, nous sommes ciblés parce que nous sommes fragiles. Nous sommes une petite minorité au Pakistan. Si un chrétien réussit un peu trop dans la vie, il est immédiatement attaqué. Comme notre fils, il aimait jouer au cricket, il était le capitaine de son équipe et avait remporté de nombreux trophées. Il s'est disputé pendant un match contre ses adversaires. Les gens avec qui il s'est battu ont gardé cette rancune contre lui pendant des mois. Ils ont préparé leur coup pendant tout ce temps. C'est à cause de ça que tout est arrivé. Je m'en veux car j'aurais dû m'assurer que le problème était résolu.
Au Pakistan, les conditions d'emprisonnement des accusés de blasphème comme Patras sont terribles. Placés à l'isolement, fréquemment menacés de mort à l'intérieur de leur cellule par les gardiens ou les co-détenus, il leur est souvent interdit de recevoir la visite de leur famille. La plupart d'entre eux passent de très nombreuses années en prison, même quand ils finissent acquittés. Sohail Yafat a passé 15 ans à leur côté, accusé de meurtre et finalement gracié. Pour les détenus chrétiens comme lui, le quotidien de la prison était encore pire.
Je ne pourrai jamais oublier le comportement des gardiens de la prison envers moi. La cellule était surpeuplée, on n'avait aucun espace. Un jour, j'avais soif, alors j'ai demandé de l'eau à quelqu'un. Les gardiens m'ont battu parce que je n'avais informé personne que j'étais chrétien. Un prisonnier hurlait « Tu as détruit mon verre, tu l'as sali à jamais ». J'ai mal, rien d'y penser parce qu'on m'a torturé injustement. Là-bas, les condamnés pour blasphème étaient placés à l'isolement, à l'écart des autres prisonniers. J'ai rencontré deux autres condamnés pour blasphème au cours de mon séjour en prison. Ils étaient tous deux condamnés à mort. L'un d'entre eux était un chrétien de 60 ans. Un jour, il se tenait près d'une charrette où des beignets étaient vendus et il y avait une chienne à proximité. Il a dit que la chienne devait être nourrie aussi car elle était maigre et il l'a appelé affectueusement l'animal Maipata. Mais c'est aussi le nom affectueux qu'on donne à Bibi Fatima, la fille du prophète. Alors les gens ont estimé qu'il avait blasphémé en salissant un nom sacré. Ils se sont agités et l'homme a été en prison. Ce vieil homme, je vous assure, c'était un homme civilisé. C'était très malheureux ce qui lui est arrivé. Il a utilisé un mot d'argot qui était courant dans son village mais qui n'était pas connu en dehors. Il était très humble et gentil. En prison, il m'a traité comme son fils. L'autre personne était très jeune et travaillait avec une organisation chrétienne. Il était torturé en prison parce que les gardiens ne pouvaient pas le supporter. Je leur demandais pourquoi vous le torturez, pourquoi vous le placez si longuement à l'isolement, il ne peut pas rester comme ça. Il n'était pas autorisé à parler ni à rencontrer qui que ce soit. Alors c'est vrai qu'il commençait à se comporter bizarrement, il lisait fort la Bible. Ça énervait les gardiens, ils le maltraitaient. J'intervenais autant que je pouvais, je leur disais donnez-moi une chance, je vais le convaincre de ne plus être bizarre, de ne plus être un problème pour la prison. Ce jeune homme avait seulement besoin de quelqu'un à qui parler pour que son esprit ne sombre pas. À mon avis, il n'y a rien à faire pour sauver ces hommes. Notre système les condamne. Quand les hommes sont accusés de blasphème, leur vie devient si dure, elle est comme engloutie dans un sable mouvant.
Depuis son bureau à Lahore, l'ancien juge Mian Zulfikar reconnaît l'extrême vulnérabilité de la justice dans les cas de blasphème. Lui-même en a traité plusieurs, mais refuse de nous dévoiler les peines qu'il a prononcées dans ses affaires.
Dans les affaires de blasphème, le juge se dit « Si j'acquitte l'accusé, les mollahs ou les militants radicaux vont dire de moi que je suis aussi un blasphémateur. » Ce sont des affaires si sensibles qu'ils condamnent toujours les accusés. Même s'ils entendent deux témoins qui ne tiennent pas la route, les juges condamneront, car ils ont peur. Après tout, ils sont des êtres humains comme les autres et ils connaissent leur société. Je me souviens bien d'un ami avocat, Iqbal Bhatti. Il avait défendu un cas de blasphème. Après avoir fait libérer son client chrétien, il a été assassiné dans sa chambre. D'après moi, 80 à 90% des cas de blasphème sont montés de toutes pièces. Ils ne peuvent jamais être prouvés. Pourtant, dans les textes, la loi me paraît juste. Le problème est en nous. Nous accusons trop facilement les gens de blasphème, surtout les non-musulmans. Mais heureusement, ces cas sont généralement acquittés devant les instances juridiques supérieures, telles que la Cour suprême, comme vous l'avez vu dans l'affaire d'Asia Bibi.
Effectivement, la Cour suprême est réputée clémente dans les affaires de blasphème. Dans le cas d'Asia Bibi, elle a aussi rejeté un recours des islamistes contre le verdict. C'est un précédent historique. Mais être jugé à la Cour suprême est un très long processus, réservé aux plus aisés. 40 000 dossiers y étaient en attente en janvier. Seule une poignée d'avocats ont le droit d'y plaider et leurs tarifs sont inaccessibles au commun des mortels. Au-delà de la Cour suprême, c'est l'ensemble du système judiciaire qui est à la dérive au Pakistan. À l'échelle du pays, presque 2 millions de dossiers attendent d'être jugés. Cette situation dramatique profite au mouvement islamiste qui, ces 10 dernières années, ont toujours plus invoqué la loi contre le blasphème à l'excès, comme l'explique Ahmed Rafay, intellectuel et écrivain pakistanais.
Le blasphème a été utilisé comme un outil à plusieurs périodes, mais je pense qu'avec le temps, cette question s'est radicalisée au point d'être même devenue une arme. C'est arrivé après l'assassinat de Salman Taseer en 2011.
La question du blasphème au Pakistan ne va pas sans le nom de cet homme, Salman Taseer. Cet ancien gouverneur de la province du Punjab est assassiné par son garde du corps en janvier 2011. Son crime, avoir critiqué la loi sur le blasphème quelques mois après l'arrestation d'Asia Bibi. À l'époque, sa mort soulève une vague d'émotions immense dans tout le pays.
En 2010, tout est relatif, mais franchement, c'était les bons vieux jours. Si vous étiez accusé de blasphème, vous pouviez légitimement espérer une défense solide dans un tribunal de première instance pour vous rendre justice. Mais maintenant, on est très loin de ça. Il faut beaucoup de soutien politique si vous voulez gagner votre procès. La violence qui a succédé au verdict d'Asia Bibi n'a pas commencé le jour où le verdict a été donné. Elle a été soufflée bien des jours plus tôt par des groupes militants qui ont utilisé nos propres médias pour se faire entendre. Leur voix était pourtant minoritaire dans la société. Et s'ils ont pu le faire malgré cela, c'est parce que la loi sur le blasphème a été manipulée de sorte qu'on peut l'utiliser de façon impropre. Rappelons-nous, d'où viennent vraiment ces lois? Ce sont les colons anglais qui les ont introduites en premier lieu dans notre système pénal autour des années 1920. Et ça s'est fait parce qu'à ce moment-là, une peine de 3 mois de prison pour avoir heurté les sentiments religieux s'était considérée comme pas assez. Ensuite, il a fallu 70 ans de plus pour que les lois soient amendées, des articles 295B et C.
Ces clauses prévoient d'une part que la profanation du Coran soit punie de la prison à vie et que quiconque profane le prophète oralement ou par écrit ou par insinuation, directement ou indirectement, soit puni de la peine de mort.
Ces amendements ont été introduits à une période de montée du militantisme islamique au Pakistan et de l'influence de l'Arabie saoudite. On est à la fin des années 70 et au début des années 80. Ça coïncide avec la prise de pouvoir du général Zia.
Sous le régime du dictateur qui, entre 1977 et 1988, procédera à une politique d'islamisation profonde du pays, le nombre de personnes poursuivies pour blasphème explose et les sanctions sont aggravées.
Ces changements se sont faits pour plaire aux différentes forces qui tentaient de marginaliser la minorité Ahmadi, les chiites. Le but n'était pas vraiment de viser les chrétiens à l'époque. Le résultat de ces amendements pris dans les années 80 s'est exprimé au fil des années par l'application abusive de cette loi. Il suffit maintenant d'une poignée de gens, pas une seule personne, mais une poignée de gens influents qui vont se pointer dans un commissariat et accuser quelqu'un d'avoir blasphémé. Vous n'avez pas besoin de voir le blasphème vous-même. Vous avez juste à dire que telle personne a commis un blasphème et avec ça, vous pouvez entamer une procédure. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous devez perdre la tête et tuer quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il pense. C'est une interprétation ridicule de la loi et c'est tout à fait honteux.
Mais la lutte contre le blasphème n'est pas qu'une marotte de militants politiques radicaux. Elle est aussi très chère à une grande partie de la société pakistanaise, profondément conservatrice et religieuse, comme ici au mausolée de Mumtaz Qadri, du nom du garde du corps qui a assassiné le gouverneur du Punjab, Salman Taseer. L'ancien membre d'un commando d'élite de la police a finalement été pendu pour son crime en 2016. Depuis, les pèlerins se pressent sur sa tombe.
Je suis ici pour prier.
Pourquoi Mumtaz Qadri est important pour elle?
Parce qu'il a donné sa vie pour l'islam.
En détaillant du regard les 1000 décorations du tombeau scintillant, entre fleurs en plastique pendant au plafond, petits miroirs incrustés dans le marbre de la stèle, Annika, la grande sœur de la fillette, dépose son nouveau-né sur la tombe pour faire une photo.
Mumtaz Qadri a donné sa vie pour l'islam et c'est un grand sacrifice qui ne peut être fait que par une personne courageuse. Quand il s'agit de défendre la religion, les gens parlent beaucoup, mais lui, il a agi, il a défendu l'islam et tué une personne qui était contre notre religion et le prophète Mahomet. C'est donc un acte de bravoure. Les gens comme lui sont rares dans notre pays.
Dans la cour extérieure, des hommes contemplent une sorte de gigantesque tableau d'honneur. C'est une pancarte blanche qui regroupe toutes les photos assorties de petites biographies de ceux qui ont tué au nom de la lutte contre le blasphème. parmi eux Mumtaz Kadri.
J'étais en train de lire les histoires de tous ces adorateurs du prophète Mahomet qui ont tant donné pour lui. Nous discutions avec mon ami des vies tellement douloureuses de ces héros de l'islam. Lire ce qui leur est arrivé noie mon cœur de chagrin. Depuis les temps anciens des compagnons du prophète, les vrais musulmans ont toujours eu à faire face à des épreuves terribles, et leur sort est si tragique que ça m'est presque insupportable.
Sur son bureau à Islamabad, Nasir Minas a fait encadrer ce même tableau. Cet avocat est membre d'un parti politique qui a fait de la lutte contre le blasphème son unique fer de lance et qui a rassemblé 2 millions de voix aux législatives de juillet, le TLP. Il nous détaille le profil de ceux qu'il appelle ses martyrs.
La première, c'est une photo du martyr Mourid Hussein. Il a tué un hindou en 1935. À côté, c'est un autre de nos héros. Il s'agit du martyr Ilamuddin qui a aussi tué un hindou. Il avait appelé son âne du nom du prophète. Il avait aussi écrit un livre blasphématoire. Ces hommes ressentaient en eux des émotions communes à tous les musulmans. Les blasphémateurs heurtent les émotions des musulmans du monde entier sans être punis. Il a donc fallu en faire un exemple pour empêcher les hindous de blasphémer à nouveau.
Les hindous et les chrétiens, qui représentent moins de 3% de la population pakistanaise, ne sont pas les seuls visés. La minorité musulmane Ahmadi est particulièrement persécutée et fréquemment accusée d'apostasie. En cause, les Ahmadis ne croient pas à l'un des principes cardinaux de la grande majorité des musulmans, que Mahomet soit le dernier prophète. Ils considèrent qu'un autre prophète est apparu après lui, autour du 19e siècle.
Ces blasphémateurs ahmadis sont contre le Pakistan, contre l'islam et se cachent dans notre société. Ils veulent abroger la loi sur le blasphème car ils aiment affronter le prophète Mahomet. D'après la charia mais aussi selon la loi du Pakistan, ce sont des infidèles et eux pourtant se considèrent comme musulmans. Ils s'allient à des lobbies juifs contre nous, contre le Pakistan, contre l'islam. Ils veulent imposer le sécularisme ici. Ils sont liés à Israël, à l'Inde, aux États-Unis. Ils veulent une société libertaire au Pakistan, détruire le système islamique dans le pays et affaiblir l'armée pakistanaise. Ils oublient que la foi est la base de toute nation et qu'elle est nécessaire à l'intégrité et au respect d'un pays. Si on supprimait la loi, il y aurait alors des centaines de personnes qui se rendraient justice eux-mêmes. Écoutez, 78 personnes sont en prison pour blasphème, condamnées à mort par des tribunaux nationaux. Alors, pourquoi ne sont-ils toujours pas pendus ?
Nous disons aussi que la France est prête, si c'est le vœu de l'intéressé, si c'est le vœu de sa famille, à accueillir en France Madame Asia Bibi, si elle le demande.
Les organisations religieuses ainsi que des ONG pour la défense des droits de l'homme sont d'un grand secours. Elles réunissent des fonds pour la cause des personnes accusées de blasphème, assurent leur défense et soutiennent leurs familles. L'association Justice for Pakistan à Lahore, gardée par des hommes en armes, paye cet engagement courageux. Mais depuis quelques années, elle a baissé les bras. Elle ne s'occupe plus de ces condamnés-là. Trop dangereux, d'après la présidente Sarah Bilal.
Malheureusement, pour des raisons politiques, la question de la loi du blasphème a été tellement politisée qu'elle est devenue une no-go zone. Il y a des gens qui ont cherché à instrumentaliser politiquement cette loi et ils sont arrivés à construire tout un discours autour du blasphème qui reproche à l'Occident de s'y intéresser de façon disproportionnée. Et dans les faits, plus l'Occident en parle, plus ça rend ce discours crédible. Ce que ça produit comme résultat pour ceux qui travaillent sur le terrain à défendre les accusés de blasphème,
femmes dans des conditions exceptionnellement difficiles, c'est que ça affecte leur travail. C'est extrêmement néfaste pour eux. Donc je crois que fondamentalement, stratégiquement, si on veut discuter de cette loi, il faut que la société pakistanaise se la réapproprie. Et ça n'arrivera qu'à condition que tout le monde, en dehors du Pakistan, bien sûr, vous avez le droit de faire part de vos inquiétudes auprès des institutions internationales, mais vous devez arrêter de faire systématiquement les gros titres sur la question du blasphème quand vous commentez l'actualité pakistanaise. Parce que ça ne nous aide pas sur place, ça ne nous rend pas la vie plus facile et que ça ne nous aide pas à réexaminer cette loi et à résoudre par nous-mêmes ces problèmes. Écoutez, il y a des personnes condamnées pour blasphème qui sont acquittées au niveau des hautes cours de justice, de la Cour suprême et même des tribunaux locaux. J'en ai été témoin personnellement. Personne n'en entend parler et vous ne voyez personne dans la rue qui manifeste. Il y a des voix contre la loi sur le blasphème au Pakistan et il y en aurait encore beaucoup plus si on n'était pas discrédité comme étant des agents à la solde de l'Occident.
Pour résoudre les excès de la loi sur le blasphème au Pakistan, il faudrait donc arrêter d'en parler, estime Sarah Bilal. Mais depuis 3 mois, Kazia Bibi est libre et alors que le souffle médiatique est retombé, la loi reste appliquée. De nouvelles accusations apparaissent régulièrement dans les journaux et les audiences sont sans cesse repoussées. Dans un pays défini par la religion, le blasphème reste pour beaucoup une ligne rouge infranchissable.
Pakistan, les damnés du blasphème, un reportage de Solène Fioretti avec Emmanuel Faucillon à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Laurent Gaillet, chargé de recherche aux séries de Sciences Po, spécialiste de l'Inde et du Pakistan. Laurent Gaillet, est-ce que les Occidentaux feraient mieux de ne pas se mêler des affaires pakistanaises, comme le demande la présidente de cette ONG, là qu'on vient d'entendre ? Si on critique la législation pakistanaise, c'est contre-productif ?
Effectivement, on voit à quel point ça contribue à la diabolisation de certains de ces activistes. Après, la mobilisation est particulièrement forte sur les chrétiens. Sur les autres minorités, il me semble qu'elle est beaucoup moins importante.
Mais alors, si le Pakistan veut avoir une bonne image à l'international, il pourrait essayer de ne pas trop prêter le flanc aux critiques. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, dans la mesure où là, dans le contexte actuel, ces lois paraissent quand même intangibles. Ce qui paraît, la marge de manœuvre se situe plutôt, comme le reportage le suggérait, dans des décisions de cassation au niveau des cours supérieurs. En revanche, une réforme, voire a fortiori une abolition de ces lois paraît tout à fait impensable dans le contexte actuel.
Alors, on entendait cet ancien juge, Mian Zulfikar, qui disait « les juges ont peur ». Est-ce que la justice a quand même les moyens de résister à la pression des radicaux ?
La justice a les moyens, dans la mesure où, comme le suggérait le reportage, surtout au niveau des cours supérieurs, donc des hautes cours dans les provinces ou de la Cour suprême au niveau fédéral, voire des cours de district, on a des décisions, même si on n'a pas de statistiques complètes, on a des décisions contribuant à innocenter, enfin plutôt à relâcher des inculpés, pas à les innocenter justement. Ces décisions interviennent généralement sur la base de vices procéduraux ou de faiblesses des témoignages. Dans la mesure où la marge de manœuvre, là encore, des juges étant limitée, ils ne peuvent pas se permettre d'innocenter. C'est-à-dire.
On est sur le non-lieu, on dit on n'a pas la preuve.
Voilà, absolument.
Comme pour Donald Trump.
Absolument. Ce qui est tout le problème, parce que du coup, ça expose les prévenus à des représailles, à des actions éventuellement d'auto-justice. À l'issue de leur libération.
Alors on va y revenir tout à l'heure. Je veux bien un petit retour en arrière quand même, un petit retour historique. On entendait dans le reportage l'intellectuel Ahmad Rafi faire référence à l'histoire de cette législation. Est-ce que tout est de la faute des colons anglais ?
Alors là, comme toujours, en matière d'héritage colonial, les choses sont compliquées. C'est-à-dire que effectivement, ces lois sur le blasphème, ou plutôt ces lois initialement sur l'atteinte aux sentiments religieux, remonte aux premiers efforts de codification d'un code pénal dès les années 1830 à l'initiative de Thomas Macaulay, qui est le grand architecte du code pénal indien, dont l'Inde et le Pakistan, dans la période postcoloniale, vont hériter, puisque aujourd'hui le Pakistan a dans une large mesure un code pénal hérité de celui de 1860 en Inde. Et il introduit dès le premier brouillon de code pénal indien, en 1837, le délit d'atteinte au sentiment religieux de la population. Hein, on est dans une période coloniale où l'État colonial se perçoit comme un arbitre face à une société travaillée par son émotivité en matière religieuse. Et donc l'État colonial va être le garant et l'agent de rationalisation de cette population foncièrement émotive. Cette législation va contribuer en même temps à libérer, c'est le paradoxe, ces émotions religieuses, hein, puisqu'il faut démontrer un préjudice moral pour que l'accusation de blasphème soit recevable, ce qui va enclencher une dynamique d'expressivité des sentiments religieux dont l'Inde et le Pakistan vont hériter dans la période postcoloniale.
D'accord. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces lois imprègnent la vie quotidienne des Pakistanais ?
Alors, ces lois, donc, juste ce qu'il faut rappeler, c'est que ces lois ont ensuite, comme le soulignait le reportage, au Pakistan, été profondément modifiées, c'est la différence avec l'Inde. Autant il s'agissait dans la période coloniale, pour l'État colonial, d'être un arbitre entre les différentes communautés, hein, dans une logique séculariste, comme on l'a défini en Asie du Sud. Au contraire, sous le mandat du général Zia, dans les années 80, il s'agit cette fois d'apaiser la population musulmane, de la réunir aussi, par-delà ces divisions et ces tensions sectaires croissantes. Hein. Donc il y a aussi, à travers les réformes de 1980 à 1986, à travers la criminalisation de différents types de blasphèmes, une volonté de réunir la nation autour d'un objet consensuel. Malheureusement, ce projet va en fait se traduire par l'opposé, c'est-à-dire au contraire, une augmentation des tensions à la fois au sein de la population musulmane et contre les minorités religieuses.
Et c'est donc encore très présent aujourd'hui.
Et donc c'est encore extrêmement présent, d'autant plus que, comme le soulignait le reportage, le propre de certaines de ces réformes, notamment le fameux article 295C du Code pénal, qui est adopté en 1986 et qui vise spécifiquement la question du blasphème contre le prophète, prévoit de criminaliser donc tout propos, tout sacrilège, propos ou acte blasphématoire en action ou en intention. Hein. Donc il peut y avoir simplement une insinuation qui peut se traduire par exemple donc par un propos malheureux, par un geste malheureux non intentionnel. Et c'est réellement en fait l'accusation qui crée le crime.
Et donc on peut très facilement être accusé de blasphème.
Et donc on a une démocratisation et une prolifération des accusations de blasphème qui du coup s'insèrent dans le quotidien et qui créent une véritable épée de Damoclès pour toutes les populations hein, et particulièrement pour les minorités religieuses.
Et donc les chrétiens en particulier ?
Les chrétiens en particulier, les Ahmadis en premier lieu hein, dont on parlait. Donc
Parlez-nous un petit peu des Ahmadis. Donc eux ils sont musulmans mais pas reconnus comme musulmans.
Alors les Ahmadis sont, donc on a un mouvement de grande effervescence religieuse hein, en Inde, en particulier dans le nord de l'Inde à la fin du 19e siècle. Et les Ahmadis sont l'un de ces mouvements de réforme religieuse au sein de l'islam indien. Ils se conçoivent, et aujourd'hui encore, comme musulmans. Simplement, c'est un mouvement charismatique, messianique, qui se développe autour donc d'un leader, Mirza Ghulam Ahmad, d'où leur nom d'Ahmadi, qui se prétend être le messie, l'équivalent de Jésus pour les chrétiens ou de Vishnu pour les hindous. Plus tardivement, il se présente également comme le Mahdi, hein, donc le grand rédempteur eschatologique supposé arriver à la fin du monde. Et pour les musulmans, cela revient à contester le sceau de la prophétie, donc l'idée que Mohammed est le dernier prophète et que la révélation est achevée. Ce qui va, dès les années 1950, alimenter des tensions au Pakistan. On a des émeutes meurtrières à Lahore en 1953, déjà contre les Ahmadis. Et suite aux pressions une mobilisation extrêmement intense dans les décennies suivantes, Zulfikar Ali Bhutto, en 1974, déclare les Ahmadis non musulmans. Hein, mais ce qui ne va pas mettre fin à ce mouvement d'opposition contre les Ahmadis, qui sont perçus comme un ennemi intérieur, qui sont systématiquement accusés d'apostasie, et donc exposés à la vindicte des mouvements conservateurs et islamistes radicaux.
Parce que c'est une communauté très mal acceptée.
Parce que c'est une communauté très mal acceptée et qu'elle est perçue aussi comme ayant fait de l'entrisme dans les élites, dans l'appareil d'État, Donc c'est une communauté qui est exposée à une suspicion intense de pénétration de l'appareil d'État. Hein. Donc on voit des armadilles partout. Et donc il s'agit systématiquement de débusquer, de traquer cet ennemi intérieur. Et la loi sur le blasphème est l'un des instruments de cette traque.
Alors la problématique des chrétiens est un petit peu différente.
La problématique des chrétiens est sensiblement différente dans la mesure où alors les chrétiens, la majorité des chrétiens, donc les chrétiens sont très, très minoritaires. Hein, il faut rappeler que le Pakistan est un pays à 96% musulmans. Donc chrétiens armadis cumulés, c'est à peu près 2% de la population. Les chrétiens se concentrent notamment dans cette province du Pendjab, hein, où se concentre près de la moitié de la population pakistanaise, une province largement rurale. Et les chrétiens se concentrent en particulier donc dans les zones rurales de la province et sont, pour ce qui est de ces chrétiens pendjabis, souvent des descendants de convertis hindous de basse caste ou intouchables. Et donc ils cumulent à la fois un stigmate d'altérité religieuse, mais aussi celui d'appartenir à des castes intouchables. En dépit du fait que le Pakistan est un pays musulman, il a hérité de ses tabous rituels, notamment de cette conception de la pureté et de l'impureté issue du système des castes.
Hein. C'est pour ça qu'on entend être chrétien, c'est être sale, tu bois mon eau, tu la salis.
Exactement, c'est plus que sale, c'est-à-dire c'est impur au sens de l'impureté rituelle dans l'hindouisme. Et donc, à ce titre, justement, la question de l'eau, de l'échange de récipients, tout ce qui peut mettre en contact hein, donc avec les fluides corporels est considéré comme un facteur de pollution rituelle. C'est donc central dans les relations quotidiennes entre les classes populaires, dans les classes populaires entre notamment ouvriers agricoles, comme dans le cas d'Asia Bibi, musulmans ou chrétiens.
Et donc on comprend aussi que les chrétiens ont une liberté d'expression moindre que les musulmans.
Ils ont une liberté d'expression moindre, d'autant justement qu'ils sont sous le coup de ces pressions du fait du blasphème. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien souligner la dimension donc, de simple insinuation ou la non-intentionnalité des actes ou propos blasphématoires les expose au quotidien à ces accusations de blasphème. Et donc, particulièrement donc dans les zones rurales du Pendjab, hein, toute dispute interpersonnelle, en particulier dans le domaine foncier par exemple, peut se traduire et peut se régler par une accusation de blasphème.
Et alors la législation est aussi instrumentalisée à des fins politiques, contre des dissidents, contre...
Absolument, et ça c'est souvent quelque chose qu'on saisit assez peu à l'étranger, surtout depuis 2015, alors ça c'est un phénomène assez récent. On a vu se multiplier soit les accusations, soit les violences, voire les lynchages contre des groupes ou des individus dissidents. Hein, donc ça peut être, on a le cas d'un jeune, Mashal Khan, assassiné il y a quelques années du fait des critiques qu'il avait intentées à l'administration de son université à Mardan, où là, l'administration de l'université semble avoir utilisé l'accusation de blasphème pour mobiliser la foule contre lui. Mais on a vu aussi, de manière plus insidieuse, l'appareil d'État, en particulier peut-être l'armée, laisser insinuer, hein, comme souvent par délégation, à travers soit des présentateurs télévisés islamistes, soit des groupes islamistes radicaux dans la rue, en les laissant accuser des groupes, des acteurs progressistes, de propos blasphématoires. Hein, et ça, c'est directement les exposer à la vindicte populaire.
Et il y a aussi des rivalités entre courants religieux.
Alors il y a aussi des rivalités entre courants religieux, y compris au sein de l'islam sunnite. Hein, donc la majorité quand même des accusations qui sont portées et des inculpations concernent donc les minorités. Enfin la moitié des cas concernent les minorités religieuses, donc armadis et chrétiens. Ensuite dans la moitié restante, ce sont des musulmans, mais dans la moitié restante, les deux tiers sont des chiites. Hein, donc c'est là aussi une manière de remettre à sa place et de lutter contre un courant perçu comme dissident et posant problème à la majorité sunnite. Cela dit, au sein des sunnites, on a également des rivalités qui sont liées à des tentatives de la part au niveau très local souvent, de leaders religieux, d'entrepreneurs religieux, de s'imposer sur le marché du salut local.
Alors j'aimerais poser une question à Solène Fioretti, notre reporter, puisqu'on voit combien le blasphème, c'est une problématique présente et sensible au Pakistan. Tourner ce reportage n'a vraiment pas dû être simple pour vous, Solène ?
Non, alors ça c'est sûr que c'est pas le mot que j'emploierais, hein. C'est un travail qui a demandé des mois. Pourquoi ? Parce que, comme l'expliquait Laurent Gayet, parce que c'est un tabou total. Vous savez, ici, même pour interviewer des chercheurs, des gens qui sont dans des ONG, hein, vraiment, qui s'occupent de combattre donc, de ces lois, les gens me disaient « Non, mais moi, je ne veux pas faire cette interview parce que j'ai trop peur de bafouiller. J'ai trop peur voilà, que mes mots dépassent ma pensée. » Enfin, les gens sont constamment sur la réserve et de plus en plus, malheureusement, ces dernières années. Donc, personne ne voulait vraiment me parler. Je vous donne même un exemple assez parlant. Je suis passée en France il y a quelques mois et j'ai voulu en profiter pour interroger des chercheurs français sur cette question. Et même en France, des chercheurs m'ont dit « Non, mais moi, pour pouvoir poursuivre mon travail sur le terrain, je ne veux pas aborder cette question. » Et il ne s'agit pas simplement de réserve vis-à-vis de l'État pakistanais, hein, qui n'aime de toute façon pas du tout qu'on aborde cette problématique parce que d'après eux, on salit l'image du Pakistan en ne parlant évidemment que de ça. Mais ces gens, ils ont peur aussi pour leur travail de terrain, pour pouvoir continuer de recueillir des témoignages. Et ça a été effectivement très long avec la famille de Patras, notamment. Donc, ils sont donc les parents, vous savez, du jeune garçon qui est accusé d'avoir blasphémé sur Facebook. Ils habitent désormais dans une maison cachée. Il fallait les rencontrer dans les locaux des ONG. Ensuite, quand j'ai voulu aller donc dans la cour, pourtant vraiment caché, voilà, en niqab, pour passer inaperçu. À plusieurs reprises, il y avait des militants radicaux qui chantaient le Coran, qui empêchaient les gens de rentrer. Donc, c'est ajouté à la complexité de la question et au tabou, la peur quand même, la peur de ma peur, en fait, d'interviewer aussi ces militants, ces groupes pour qui, vous savez, évidemment, l'Occident représente quand même le blasphémateur par essence. Donc, c'était évidemment compliqué d'aller dans ces manifestations, a fortiori quand vous êtes une femme. Et ce qui a aussi été compliqué, c'est que y a beaucoup de situations qui ont finalement relevé de l'irrationnel, puisque, par exemple, dans le village d'Asia Bibi, où j'ai quand même passé une journée entière avec des gens extrêmement virulents, extrêmement violents à l'égard de cette mère de famille. Vous savez qu'il y a des voitures qui ont été brûlées, des voitures de policiers qui ont été brûlées après l'acquittement. Enfin, 9 ans après, les gens restent extrêmement en colère. Eh bien, ces gens, ils sont, puisque vous êtes quand même au Pakistan et que c'est un pays qui est extrêmement hospitalier, très très accueillant avec les étrangers. On m'invitait à déjeuner, on me faisait des cadeaux. Et donc, ce trouble, en fait, que j'ai ressenti, il freinait aussi ma propre compréhension du phénomène, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un reportage voilà, où j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le faire et qui a été effectivement très compliqué à réaliser. Ouais.
Ah oui, merci Solène Fioretti. Alors, Laurent Gayet, il y a quand même ce décalage entre la loi telle qu'elle est énoncée, la mort en cas de blasphème, et son application qui est plutôt la prison à vie. Pourquoi ?
Alors là, on peut simplement faire des conjonctures, mais probablement du fait des pressions internationales. Hein. C'est-à-dire que le Pakistan est un pays qui exécute beaucoup par ailleurs, hein, notamment dans la lutte antiterroriste. Ces exécutions se sont multipliées ces dernières années, donc c'est un pays où la peine de mort est régulièrement impliquée. Hein. Donc le problème n'est pas là. Donc il y a une spécificité très clairement de l'exécution de ces peines capitales. Probablement donc du fait de pression internationale.
Mais du coup, il y a un effet pervers, entre guillemets, puisqu'on voit des personnes qui vont être tentées de faire justice elles-mêmes.
Absolument, et c'est ce qui apparaît donc à plusieurs reprises hein, dans le reportage. Lorsque notamment le petit propriétaire terrien dans le village d'Asia Bibi évoque le fait qu'ils auraient mieux fait justement de se faire justice eux-mêmes. Puisque finalement la Cour suprême a fini par acquitter Asia Bibi. Donc c'est tout le paradoxe de cette législation hein, qui prévoyait justement de réunir la population, de régler définitivement ce problème et qui crée au contraire des attentes, des frustrations qui d'une part créent une loi qui est elle-même sacralisée. Hein, c'est ce qu'on a vu avec l'assassinat de Salman Taseer où la critique même de la loi est perçue comme un blasphème. Et en même temps, cette loi pourtant sacralisée est défaillante. Et donc, on va avoir effectivement un encouragement aux pratiques d'auto-justice, soit avant, donc immédiatement dès l'accusation de blasphème, hein, soit pendant les procès ou à la libération des prévenus qui pourraient être acquittés.
Mais alors, pour être très clair, Laurent Gayet, la législation sur le blasphème, est-ce qu'elle est très populaire, soutenue par une très large majorité de la population, ou est-ce que c'est surtout une minorité agissante qui la défend ?
C'est extrêmement difficile à dire. Vous doutez bien qu'il n'y a pas de sondage sur cette question. Ça paraît tout à fait inenvisageable. Et personne n'osera se prononcer publiquement ou même en privé contre cette loi. Donc c'est un fait acquis. Mais il est extrêmement difficile de mesurer sa popularité effective.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question de la modifier.
Non, il n'est pas question de la modifier et a fortiori de l'abroger.
Donc les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire évoluer la position
L'acquittement d'Assia Bibi a quand même été une décision absolument marquante. La volonté aussi, donc c'est pas seulement, c'est une décision de justice, c'est aussi, comme le rappelait Solène, la décision de l'appareil sécuritaire, pour le dire très clairement, l'armée, de contenir la protestation. Le propre de ces mobilisations, et là c'est, disons, intégré à la loi elle-même, à cette législation depuis la période coloniale, cette législation n'est effective que par l'affectivité qu'elle suscite. Donc c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle cherche à encadrer l'expression de l'outrage religieux et en même temps elle le suscite, elle l'entretient jusqu'à l'excès. Et donc si l'appareil d'État et en particulier l'appareil sécuritaire au Pakistan parvient à contenir l'expression justement de ces affects religieux, comme ça a été le cas après Assia Bibi, où le pays n'a pas été à feu et à sang, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, là il y a un signal qui me semble positif et qui va permettre peut-être d'avancer dans un climat un peu plus serein.
Alors, ce qui est quand même frappant, c'est cette admiration pour les martyrs. On a entendu dans le reportage cette jeune femme qui vient sur la tombe de Mumtaz Kadri, le garde du corps qui a assassiné le gouverneur du Pendjab. C'est assez surprenant pour nous, vu de France. D'où elle vient, cette admiration pour les martyrs comme ça ?
Elle vient de l'amour, peut-être plus que de la haine, paradoxalement. Le terme qui revient le plus en ourdou chez ces gens, ishq, c'est vraiment l'amour, au sens évidemment non charnel du terme. Il vient en particulier du courant majoritaire de l'islam sunnite pakistanais, qu'on appelle l'islam barelvi. Là encore, donc issu d'un de ces grands mouvements de réforme socio-religieuse de la fin du 19e siècle, qui est très marqué par la dévotion soufie. Donc c'est un courant où l'amour du prophète est particulièrement intense. Le paradoxe étant, paradoxe par rapport, disons, aux idées un peu convenues selon lesquelles, justement, les soufis seraient ces bons musulmans pacifiques, non portés à la radicalité. Le Pakistan offre un démenti absolument cinglant par rapport à ces clichés, notamment depuis quelques années. Dans la mesure où on a un courant issu de cet islam dévotionnel qui s'est, pour un défaut d'un meilleur thème, radicalisé ces dernières années, probablement avec le soutien d'une partie de l'appareil d'État, pour faire pièce à d'autres courants religieux, notamment celui de l'islam déobandi, auquel les talibans étaient associés. Donc tout ça est lié aussi à des réalignements, à des changements de positionnement de l'appareil d'État par rapport à l'islam.
Donc mouvement qui a gagné en intensité et en légitimité ces dernières années.
En légitimité, en visibilité, effectivement, dans l'espace public, très fortement, et en particulier à la faveur de cet incident et de ce personnage de Mumtaz Kadri, qui est donc devenu une nouvelle figure d'intercession, conformément au culte des saints cher à cette population.
Merci Laurent Gayet. Pakistan, les damnés du blasphème. Le grand reportage de cette semaine était signé Solène Fioretti. Réalisation Emmanuel Faucillon avec Clément Daté à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction. Elle a été mise en ligne par Fiona Mogadam sur franceculture.fr. C'était une rediffusion du 19 avril 2019.